Les deux orphelines. Première partie. Chapitre 11. Toujours courant, le valet du marquis de Presles était arrivé à l'entrée du Pont-Neuf. « Allons, se dit-il, tout marche à souhait. Avant que le coche ne soit ici, que l'on ait descendu les bagages et qu'ils aient été reconnus par les voyageurs, j'ai le temps d'aller m'assurer que le carrosse est bien à l'endroit convenu et mes deux chenapans à leur poste. » Il reprit donc sa course tout en réfléchissant. Le gros homme en a pour au moins 2 bonnes heures à dormir à point fermé, et je crains fort que Madame Martin ne s'impatiente en l'attendant. « Donc, monsieur le marquis, ajouta-t-il mentalement, nous aurons notre jolie provinciale dans notre pavillon du bel air et à l'heure convenue. » Pendant que la fleur s'occupait ainsi de la réussite de son plan, il y avait beaucoup de monde sur la place et devant le bureau des messageries. Au premier rang se trouvait la Frochard. Elle courait au-devant d'un rémouleur qui descendait la rue en criant. « À repasser les couteaux, ciseaux, canifs, à repasser les couteaux !»« Le v'là enfin !» se dit-elle. « C'est bien heureux pour lui qu'il soit arrivé avant son frère. Mon Jacques, mon chérubin, car il n'entend pas raison, lui, et il aurait flanqué une ribambelle de taloche à ce lambin-là pour lui apprendre à aiguiser aussi ses jambes. » Elle s'était arrêtée pour regarder Pierre qui continuait à crier et à demander dans les boutiques si l'on avait de l'ouvrage à lui donner. Que se passait-il dans l'âme et dans le cœur de cette mère? Pourquoi ces haussements d'épaules? Pourquoi ce ricanement hideux? Et lorsque son enfant n'était plus qu'à quelques pas, pourquoi se détournait-elle sans même échanger avec lui un coup d'œil, un sourire, une parole affectueuse? Cette vieille mendiante avait 2 fils. L'aîné était un grand gaillard, solide et bâti en Hercule, ce qu'on appelle un beau gars. Le portrait vivant de son père, le mari dont la Frochard avait été folle, comme elle l'était aujourd'hui de son Jacques. Le fils cadet ne ressemblait en rien à son aîné. Il avait la nature petite et grêle de sa mère, un visage pâle, des yeux cernés qui ne révélaient que trop les privations, les souffrances endurées. On devinait en lui une âme tendre et honnête, un cœur aimant. Le pauvre garçon était boiteux. Nous saurons plus tard d'où lui venait cette infirmité qui, en augmentant sa faiblesse naturelle, avait contribué à le rendre encore plus timide, plus craintif. Et pourtant, sous cette apparence frêle et délicate, Pierre avait un grand fond d'énergie et de courage. Une fois parti, dès le matin, avec sa boutique sur le dos, il ne reculait devant aucune fatigue, trop heureux le soir, quand il rentrait, de donner à sa mère le produit de sa journée. Qu'avait-elle donc à lui reprocher? De n'être pas un bel âtre, un faiseur de passion comme son Jacques? D'être faible, malingre et boiteux? Non, il travaillait au lieu de mendier, ce qui eût été d'un meilleur rapport. Rémouleur, c'est-y ça un métier? Se disait-elle en le voyant marcher qu'à un quart. C'est palot, chétif, et le bon Dieu y a donné une bonne infirmité. Y boite! Et au lieu de se servir de tous ces biens-là pour se faire une jolie industrie, ça travaille, ça s'égosille, ça frappe aux portes pour quitter de l'ouvrage. Quand ça n'aurait qu'à tendre la main pour gagner 3 fois plus, feignant va. Feignant ? Répéta Pierre qui s'était rapproché tout doucement et qui avait entendu. Ce n'est pas de moi qu'on peut dire ça, mère, car je travaille tant que je peux. À preuve que depuis ce matin 6 heures, je n'ai pas arrêté de battre le pavé avec 2 sous de pain dans l'estomac et 1 verre d'eau puisé à la fontaine des Innocents. « C'est honteux !» grommela la mère. « Oui, toujours votre même refrain. C'est mon métier qui vous déplaît. Mais tout rude qu'il soit, s'il me fallait le changer contre celui que vous vouliez me donner, j'aimerais mieux faire un plongeon dans la Seine. Faut pas m'en vouloir, mère. Chacun sa petite dose d'amour-propre et de fierté. »« De la fierté? Avec cette manivelle sur le dos? Propre à rien !»« Mère, je vous en conjure. » Épargnez-moi ces éternels reproches qui me déchirent le cœur. Quand j'étais tout enfant et que vous m'emmeniez courir les rues, je redisais sans les comprendre les paroles de mendicité que vous m'aviez apprises. Et c'était vous qui receviez les aumônes. Plus tard, vous m'avez dit, « Te v'là assez grand, va mendier de ton côté. J'irai du mien et ça fera double profit. » J'étais donc seul, pour la première fois, je marchais tout désorienté, et je me suis arrêté sur cette place où nous venions chaque jour. Je me suis agenouillé et j'ai essayé de demander l'aumône, mais les mots que je comprenais alors ne voulaient plus sortir de ma bouche. Bêta. Et quand il s'agit de tendre la main, comme je vous avais vu faire, j'ai senti en moi-même un mouvement de souffrance et de colère. S'monsieur, fit l'affrochard avec un geste méprisant. Voyez-vous, ce geste-là, eh bien, il me faisait mal jusqu'au fond des entrailles. Quand je tenais comme ça la main ouverte et qu'on mettait un sou dedans, c'était comme si on venait d'y déposer un poids de 200 livres. Mon bras retombait de lui-même. Et sans que je comprenne pourquoi, j'avais des sanglots à la gorge et des larmes plein les yeux. T'en rapportais pas moins tes petits sous à la maman. J'avais si peur d'être battue. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Pierre se redressa autant que lui permettait sa petite taille, et s'animant. Mais aujourd'hui, je suis un homme, et je vous le répète une fois pour toutes, j'aimerais mieux mourir que de mendier pour vivre. Je ne pourrais pas, mère, c'est plus fort que moi, je ne pourrais pas. Sans cœur, t'aimes mieux laisser ta mère dans la misère, n'est-ce pas? La misère? Mais puisque ça rapporte tant la mendicité, et que le courage ne vous manque pas à vous. Je n'ai pas que moi à faire vivre. Oui, il y a Jacques, qui n'est ni faible ni infirme, lui, et que vous nourrissez à rien faire. Il est si beau, mon Jacques. C'est pas un cœur de poulet, lui. Il n'a peur de rien. De rien que de l'ouvrage. Va donc demander au corroyeur d'en face de chez nous. Il n'y a pas un ouvrier fichu de travailler comme Jacques, quand il s'y met. Oui, un jour ou deux par semaine. Et le reste du temps, c'est là qu'il travaille. Et du doigt, Pierre montrait le cabaret du coin. C'est son affaire. Mêle-toi de ce qui te regarde, répliquait la mère d'un ton menaçant. Ça me regarde bien aussi, riposta le rémouleur. Et vous comme moi, puisque tous les samedis, faut que nous lui apportions notre recette pour qu'il la boive avec ses camarades. Des vrais feignants, ceux-là. La Frochard ne se contenait plus. Mettant deux poings sous le nez de Pierre, « Tiens, veux-tu que je te dise, tu n'étais bon qu'à faire un honnête homme. Et moi, je les ai, ces canailles d'honnête homme. » Un groupe de bourgeois passait au même moment. La mendiante planta là brusquement son fils. Et, prenant son air patelin, elle se mit à répéter son éternel boniment. « Mes bonnes âmes charitables, prenez pitié d'une malheureuse vieille femme qui a deux pauvres petits-enfants à sa charge. Leur mère est morte, mes bonnes âmes, et me les a laissées. Pour les nourrir. Ayez pitié d'eux, s'il vous plaît. » Un vieux monsieur s'arrêta et remit quelques deniers à la pauvresse. Puis, une mère envoya sa mignonne petite fille apporter une aumône à la mendiante. La Frochard fit le signe de la croix en murmurant de sa voix cassée. « Que Dieu vous le rende en bénédiction. Amen !» Le rémouleur n'avait pas voulu assister à cette scène qui lui soulevait le cœur. Le pauvre garçon étouffa un soupir qui témoignait de son découragement. Triste, fatigué, il se débarrassa de son fardeau, puis il alla s'asseoir sur un banc, les bras ballants et les yeux fixés sur sa mère. En la voyant poursuivre les passants, il sentit la rougeur lui monter au front, et se rappelant ses dernières paroles. « Elle a peut-être raison, se dit-il avec un gros soupir. Je n'étais bon qu'à faire un honnête homme. Mais on ne m'a pas appris, en sorte que je suis repoussé par les uns, et malheureux avec les autres. Qu'est-ce que je fais donc sur terre, alors ? » Il avait penché sa tête sur sa poitrine, et deux larmes coulèrent le long de ses joues. Il restait là, plongé dans de douloureuses réflexions. C'était un de ces moments où le découragement s'emparait de lui, et où la pensée lui venait de se jeter par-dessus le Pont-Neuf, pour en finir avec une existence dont il avait honte. Mais il se résignait à vivre, parce qu'il n'avait pas le droit, se disait-il, de disposer de sa vie avant que le ciel en eût marqué le terme. Où ce malheureux avait-il puisé ses idées de morale et de religion? Il ne les avait certes pas sucées avec le lait de la triste et hideuse créature que le hasard lui avait donnée pour mère. Sous une enveloppe difforme se trouvait une âme d'élite. Chez cet être abandonné à lui-même dès l'enfance, le bon sens, suppléant à l'éducation, avait su maintenir Pierre, le fils de Frochard le supplicié, dans le chemin de la morale et de l'honnêteté. Aussi, en voyant le degré d'abjection où était tombée sa mère, Pierre sentait-il son cœur se serrer et une immense douleur l'envahirent. Il ne voulut pas assister plus longtemps à ce spectacle navrant. Et, se remettant péniblement sur ses jambes fatiguées, il allait replacer sa boutique sur son épaule et se retirer, lorsque de sa voix aigre, l'affrochard lui cria. « Ah ça, tu vas rester là, feignant !» et indiquant de l'index un groupe d'individus. « Leve-la, mon Jacques! Leve-la, ce chérubin de mon cœur !» Et la vieille femme se mit à battre des mains pour témoigner de la joie qu'elle éprouvait à l'idée de revoir ce fils adoré. Et comme le rémouleur s'était arrêté, indécis, « Le voilà, te dis-je » en entraînant Pierre par le bras. « Je viens de l'apercevoir au tournant du quai, avec une douzaine de ses camarades. Tiens, les entends-tu » En effet, des voix fortes et avinées se rapprochaient peu à peu, chantant ou plutôt braillant une chanson de barrière dite « La chanson des Bondrilles ». Cabaret le samedi, allons attendre le dimanche, nous y reviendrons le lundi, peut-être mardi, mercredi, jeudi, pour mettre du pain sur la planche. C'est bien assez qu'on se démanche à travailler le vendredi. » En voyant apparaître tous ces mauvais sujets qui désertaient ainsi l'atelier pour passer leur journée dans les cabarets et les bouges, le cœur de Pierre se souleva de dégoût et d'indignation. Il détourna la tête pour ne pas voir son frère parmi tous ces braillards qui faisaient scandale au milieu du public paisible. On s'écartait pour faire place aux chanteurs, suivis par une bande de petits polissons qui mêlaient leurs voix enfantines à ces voix enrouées et criaient après chaque couplet. « Bravo ! Encore ! Bis !» Les bourgeois haussaient les épaules. D'autres souriaient de pitié en se demandant comment finiraient ces gens-là. Mais la Frochard ne se faisait pas toutes ses réflexions. Elle ne pensait qu'à son Jacques. Tout pour lui. Tout pour son plaisir. Et elle comptait dans le creux de sa main l'argent qu'elle allait donner à ce chérubin. « Toi, le rémouleur !» ajoutait-elle en regardant Pierre de travers. « Vite ton gousset, et vivement ! Sinon, gare les calottes !» La chanson venait de finir en chœur, avec accompagnement des gamins qui dansaient en rond autour des bondrilles. La bande n'était plus qu'à quelques pas, et la Frochard regardait venir tous ces vauriens avec un sourire d'admiration. Une fois devant la porte du cabaret, Jacques cria aux amis. « Halte ! Front ! Soldats du premier noceur, là la cantine ! Rompez les rangs et courez commander la gibelotte, le rouge, le blanc et le cognac. C'est mon tour de payer la régalade. Et quand je m'y mets, j'y vas pas de main morte. » Ces derniers mots avaient jeté un froid sur le visage de la Frochard. Elle paraissait inquiète et tirant son fils par le bras. « C'est toi qui paies, mon garçon, à tout ce monde. T'as donc trouvé un magot ? Non, pas moi. C'est la Marianne, pardi. Marianne ? Qu'est que c'est que ça, la Marianne ? Une belle fille à qui je veux du bien. Mazette, elle a donc des écus ? J'en sais rien, mais j'ai dit comme ça, en lui tenant les deux mains, « Marianne, faut en trouver. » Et elle a trouvé. Ah, serpent, enjôleur ! Vous la verrez tantôt, au dessert. Tu l'as invitée ? Elle faisait des manières pour accepter, à cause de la société. Oh, cette demoiselle ! Mais j'y ai dit, je le veux, et elle viendra. » La vieille mendiante lança un regard plein de fierté sur son fils. « Juste comme son père, s'écriait-elle, quand il vous disait « je le veux » et qu'il vous regardait avec ses yeux de sorcier, il vous aurait fait prendre la lune avec les dents. » Jacques se mit à rire en disant avec orgueil. « Tel père, tel fils, maman, et voilà. Mais assez causé pour le quart d'heure. C'est samedi, réglons nos comptes. Hé, Pierre ! Hé, l'avorton ! Avance à l'ordre » cria-t-il en se tournant vers le rémouleur. « Est-il gai, est-il aimable ?» disait la mère. Mais le rémouleur n'était pas de cet avis. La qualification d'avorton, que Jacques lui jetait sans cesse à la tête, le blessait profondément. Et ce qui l'indignait bien plus encore, c'était l'effronterie de ce grand fainéant qui trouvait tout naturel d'employer à payer ses plaisirs et ses débauches l'argent si rudement gagné par son frère et par sa mère. Sans parler de celui qui se procurait, on ne sait comment, mais à coup sûr par des moyens honteux. La nouvelle orgie qui se préparait avait mis le comble à l'indignation de Pierre. Et quand il entendit Jacques parler de rendre à la mère les comptes de la semaine, comme des enfants respectueux devait toujours le faire, il ne put s'empêcher de lui dire.
« C'est ça, nous rendrons nos comptes et c'est toi qui empoches le tout. »«
Eh bien, après, »
répliqua Jacques.
« Eh bien, c'est injuste, c'est... »
Le pauvre Pierre n'osait pas achever, tant son frère le regardait avec un air féroce. C'est qu'en effet, Jacques, les poings fermés, s'avançait vers le boiteux en criant.
« Dis donc, le marchand de morale, quand on me force à en acheter, c'est avec ce bras-là que je paie. »«
Oh oui, je le sais bien, mais quand je ne fais pas ta volonté ou quand je dis quelque chose qui te déplaît, comment as-tu le cœur de me battre, puisque tu es le plus fort ?»«
Est-il bête, l'avorton ? Si j'étais le plus faible, c'est toi qui me battrais. »«
Non, je trouverais ça lâche. »
« Allons, assez, et comptons !»
La Frochard intervint.
« Fais donc ce qu'il te dit, imbécile » grommela-t-elle. « Tu n'as pas été créé et mis au monde pour donner des ordres, mais pour en recevoir. »«
C'est vrai. Tenez, ma mère, voilà le produit de ma semaine. »
Et Pierre tendit à sa mère une poignée de monnaie que la Frochard se mit à compter.
« Il n'y a pas lourd, » fit-elle. « 2 livres, 7 sous, 6 deniers, c'est maigre. »
« Rien que ça pour tout potage ?»
s'écria Jacques.
« Qu'as-tu donc fait de tes 4 membres depuis 8 jours ?»«
J'ai fait plus que je ne pouvais faire. Je suis brisé de fatigue.
Décidément, c'est un mauvais métier que le tien. »«
Je me tue à le lui dire, » ajouta la Frochard.
« Faudra que je t'en apprenne un autre, » ricana Jacques.
« Un autre ? Toi ?
Oh, non, non, je ne veux pas, »
dit vivement Pierre. Et il se reculait en regardant son frère avec effroi. Il ne devinait que trop ce que le grand Jacques voulait faire de lui. La Frochard, au contraire, prenait son préféré sous le bras, lui dit d'une voix câline.
« Moi, mon Jacques, je t'ai économisé 3 livres 18 sous. Lève-la, mon amour. Et avec l'argent du petit, t'auras fait une bonne recette. »«
Oh !» répondait Jacques d'un air triomphant. « L'argent ne me manque pas aujourd'hui. Mais je prends tout de même pour le principe. Et je vous emmène tous les deux au cabaret. »
Pierre ne trouvait aucun plaisir dans ces réunions de paresseux et d'ivrognes. Il refusa, donnant pour prétexte qu'il avait de l'ouvrage à rendre, et peut-être encore un peu d'argent à gagner. « Et puis, ajouta-t-il, ça me fait mal à la tête de boire. »
« Oui, c'est vrai, » répondit le colosse en regardant avec compassion son gringalet de frère. « Tiens, tu me fais quelquefois pitié, l'avorton. Après tout, « c'est pas ta faute si t'es petit et mal bâti. Si un verre de vin te grise et si une jolie fille te fait peur, c'est pas de ma faute non plus si je suis grand et fort, si j'aime le plaisir, le vin, le jeu et les belles femmes. Le travail, c'est ta vie à toi, ça t'amuse. Moi, je travaille quand je n'ai plus rien à faire. Et encore, ça m'embête. »
« Oui, pour 2 frères, nous ne nous ressemblons guère.
Toi, » reprit Jacques, « c'est le sang d'un agneau qui coule dans tes veines. C'est le sang de notre père qui bout dans les miennes. Depuis plus de 100 ans, excepté toi, l'avorton, nous sommes tous comme ça dans le tribut des Frochards. Quand le diable a semé sa graine de bandit sur la terre, on dirait que son sac s'est crevé chez nous. »
« Ah, en v'là un homme !» cria la Frochard en lui sautant au cou.
« Tiens, je t'adore comme j'adorais ton père, un brigand fini, mais qui était bien aimable, va !»
« Assez de conversation, » dit Jacques, maintenant qu'il tenait l'argent.
« Allons, allons, qui m'aime me suive ? J'ai besoin de me refaire l'estomac. Venez, la mère !»
Il avait pris la Frochard par la taille et l'entraînait au cabaret en chantant. Le rémouleur les regarda tristement partir. Et lorsqu'il vit sa mère disparaître dans l'intérieur du cabaret, il se demanda encore s'il ne valait pas mieux en finir. Et mentalement, il répéta. Qu'est-ce que je fais sur la terre? À quoi suis-je bon? Est-ce que je ne dois pas toute ma vie travailler pour nourrir ce feignant de Jacques? Il avait le cœur bourrelé, le pauvre garçon, et pendant qu'il se désespérait ainsi, quelques passants s'étaient retournés pour regarder cet homme qui pleurait. Pierre s'en aperçut, et replaçant avec effort sa boutique sur son dos, il allongea le pas dans la direction d'une maison voisine, en criant d'une voix lamentable.
À repasser les couteaux, ciseaux, à repasser les couteaux.